Mardi 15 octobre 2024, c'est notre deuxième séance consacrée à la lecture de l'Esprit des lois de Montesquieu, publié la première fois en 1748. Et vous avez, je le rappelle, une excellente anthologie de l'Esprit des lois en Garnier Flammarion. Vous n'avez pas tous les textes, hein, mais c'est une très bonne anthologie, très bien faite. Les textes sont présentés. Et puis sinon, vous avez l'intégralité de l'œuvre en 2 tomes, soit en folio, soit en Garnier Flammarion. Alors, lors de notre première séance, c'était le 24 septembre, mais vous n'en faites pas, ceux qui viennent la première fois, vous ne serez pas perdus, hein, parce que je vais résumer un peu ce que nous avons dit. Donc, lors de notre première séance, nous avons entamé la lecture de la préface de l'Esprit des lois. Et elle présente le projet de Montesquieu et la méthode qu'il va mettre en œuvre pour le réaliser. Alors, je résume très rapidement d'abord ce que nous avons vu. Et puis ensuite, nous allons poursuivre notre lecture de la préface. Alors, je laisserai de côté les considérations de Montesquieu sur la composition de son ouvrage, qui se trouve dans les 2 derniers paragraphes, pour aborder le plus rapidement possible la lecture du premier livre de l'Esprit des lois, le premier grand livre de Montesquieu. Alors, il y a 31 livres dans l'Esprit des lois. Alors, vous allez vous inquiéter, mais à ce rythme-là, on y sera encore dans 10 ans. Bon, c'est évident qu'on ne va pas tous pouvoir les lire. Et il faudra faire une sélection. En fait, je pratiquerai une sorte de lecture thématique, si vous voulez, à un moment donné. C'est-à-dire, je privilégierai un problème, par exemple, la liberté politique, la religion, vous voyez, l'esclavage. Bon, on procédera de cette façon, hein, si vous voulez. Et alors, à ce moment-là, on s'appuiera sur quelques extraits précis, tout de même, de l'œuvre. Bon, mais aujourd'hui, on va aborder le premier livre, et là, on ne peut pas ne pas le lire, parce qu'il cadre toute la réflexion de Montesquieu. Là, il faut vraiment le lire très attentivement, vraiment dans l'ordre de l'argumentation. Il contient, vous savez, 3 chapitres, et au fond, c'est le premier qui est le plus long. Il est très dense aussi. Donc, c'est surtout à ce premier chapitre du premier livre que nous consacrerons la séance. Mais je reviens à la préface. Je l'ai entièrement photocopiée. Hein. Alors, comme nous l'avons vu la dernière fois, l'ambition de Montesquieu est d'expliquer, je rappelle, c'est dans le paragraphe 3, l'infinie diversité des lois et des mœurs de toutes les nations. Je relis le paragraphe 3. J'ai d'abord examiné les hommes et j'ai cru que dans cette infinie diversité de lois et de mœurs, ils n'étaient pas uniquement conduits par leur fantaisie. Je ne reviens pas sur l'explication tout de même, hein, parce que ce sera un peu long. Mais ce qu'on peut comprendre, au minimum, c'est que Montesquieu croit pouvoir découvrir les raisons pour lesquelles les hommes ont telle ou telle mœurs dans tel ou tel pays et pourquoi ils y ont adopté telle ou telle loi. C'est-à-dire que la diversité des lois et des mœurs n'est pas irrationnelle. Elle n'est pas affaire de fantaisie. Par fantaisie, entendez opinion arbitraire, qui varie sans raison d'un pays à l'autre. Et c'est ce que disaient Montaigne et Pascal. J'en ai parlé la dernière fois. Donc, cette diversité n'est pas affaire de fantaisie, elle est affaire de circonstances. Et ces circonstances peuvent être un objet d'étude. Elles peuvent être étudiées. Il est possible d'expliquer comment la raison humaine s'adapte à chacune d'elles quand elle légifère. Alors, une fois le projet formulé, Montesquieu précise la méthode qui lui a permis de le réaliser au paragraphe 4. Je lis le paragraphe 4. J'ai posé les principes et j'ai vu les cas particuliers s'y plier comme d'eux-mêmes. Les histoires de toutes les nations n'en êtes que les suites, et chaque loi particulière liée avec une autre loi ou dépend d'une autre plus générale. Alors, de quels principes parle Montesquieu ? Ce sont des principes de méthode dont il précise dans le paragraphe 6, dont il précise qu'il les a tirés, dit-il, de la nature des choses, donc des principes qu'il a tiré de la nature des choses. Alors, qu'est-ce qu'il entend par la nature des choses? Qu'est-ce que l'on doit entendre par là? Eh bien, comme il le montrera par la suite, surtout dans le troisième chapitre du premier livre, il entend par là, d'abord, le régime politique qui caractérise une nation. Est-ce que c'est une monarchie? Est-ce que c'est une république? Il entend aussi le type de climat. Est-ce que c'est un climat chaud, tempéré, froid? La nature du terrain de cette nation, sa géographie, le mode d'activité économique, le type de commerce, l'histoire passée, la religion, etc., etc. Autant de facteurs qui, liés ensemble, permettent de comprendre la singularité des lois et des mœurs de cette nation. Voilà, c'est ça la nature des choses. C'est l'ensemble des facteurs, si vous voulez, qui permettent d'expliquer, au fond, la singularité des lois et des mœurs d'une nation. Alors, on pourrait alors penser que la démarche de Montesquieu sera celle d'un homme de science. Il chercherait à expliquer les lois et les mœurs à la manière dont un physicien étudie les phénomènes naturels en les rapportant à des lois, comme en physique, par exemple, la loi de la chute des corps, dont l'inventeur est Galilée, ou plus tard, la loi de gravitation universelle, établie par Newton. En bref, on pourrait penser que Montesquieu va expliquer les lois instituées par les hommes, ce qu'on appelle les lois positives. Lois positives, ça veut dire qu'elles sont posées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes, elles sont posées. Loi positive, comprenons loi instituée, établie. Donc, il s'agirait d'expliquer les lois positives par des lois scientifiques. C'est-à-dire, il s'agirait, au fond, de mettre à jour l'ensemble des causes qui déterminent l'existence des lois positives, des lois instituées par les hommes. Voilà ce qu'on pourrait penser qu'il va faire. Et c'est pourquoi nous nous posions la question la dernière fois, nous soulevions une question à la fin de la séance précédente. Nous nous demandions si, en écrivant l'esprit des lois, Montesquieu fait œuvre de savant. Est-ce qu'il adopte une posture objective, une posture neutre, la posture d'un sociologue qui décrit, qui explique les mœurs d'un pays, les lois d'un pays, sans prononcer sur elles des jugements de valeur? Est-ce qu'il se borne à expliquer les lois et les mœurs des différents pays sans les juger? Vous voyez, l'homme de science, si vous voulez, il explique, il ne juge pas. Bon, eh bien, c'est ce qu'on pourrait penser quand on lit notamment le paragraphe 9. De la préface. Je lis le début. Je n'écris point pour censurer ce qui est établi dans quelque pays que ce soit. Chaque nation trouvera ici les raisons de ses maximes. Chaque nation trouvera ici les raisons de ses maximes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maxime? De manière générale, ça désigne une règle de conduite. Donc, les maximes désignent tout aussi bien les mœurs que les lois. Vous voyez, c'est un terme général. Alors donc, l'objet de l'esprit des lois, au fond, serait purement théorique. Au fond, Montesquieu serait le précurseur de la sociologie. Et c'est bien ce que semble dire Montesquieu dans le paragraphe 9, puisque, si on lit encore la suite, on voit qu'il s'attache seulement à comprendre les maximes des nations, mais il précise qu'il ne lui appartient pas de proposer des changements. Entendons par là des réformes. Car c'est là la seule affaire des législateurs. Alors, je lis par exemple la suite du paragraphe 9, lisez avec moi. Chaque nation trouvera ici les raisons de ses maximes et on en tirera naturellement cette conséquence qu'il n'appartient de proposer des changements qu'à ceux qui sont assez heureusement nés pour pénétrer d'un coup de génie toute la constitution d'un État. Toutefois, et là, vous allez voir que les choses ne sont pas aussi simples, s'il est vrai que Montesquieu refuse de se poser comme juge, comme censeur, il n'écarte pas pour autant la question de l'évaluation des lois. Et comme justement vont le montrer les paragraphes suivants et toute la fin du texte en fait, toute la fin de la préface, l'étude des lois ne peut pas être séparée d'une interrogation sur leur valeur et sur leur bien fondé. Et par conséquent, elle concerne au premier chef la pratique des législateurs. Ceux, justement, qui proposent des changements. Vous voyez que, ici, donc, ce qu'on va comprendre, c'est que la connaissance des lois n'a de sens que si elle peut éclairer leur jugement. Et comme on va le voir, d'ailleurs, Montesquieu ne réserve pas la lecture de l'esprit des lois seulement aux législateurs. Vous allez voir qu'il s'adresse bien au-delà à tous les hommes. Au fond, cette réflexion sur la loi concerne tout le monde. Ainsi, vous l'aurez compris, il ne s'agira pas seulement d'expliquer les lois existantes, d'en dégager les causes, il s'agira aussi de s'interroger sur leurs résultats. Sur leurs résultats, le terme est de Montesquieu. C'est-à-dire sur les effets que ces lois produisent sur les hommes. Et par là, il s'agira de les évaluer en bien ou en mal. Et vous voyez que Montesquieu écrit à la fin du paragraphe 10, et nous allons expliquer ce paragraphe. Voilà ce qu'il écrit, vous retrouvez, regardez la fin du paragraphe 10. On examine toutes les causes pour voir tous les résultats. Je relis. On examine toutes les causes pour voir tous les résultats. Donc, il n'y a pas que les causes auxquelles on s'intéresse. On s'intéresse aussi aux résultats, c'est-à-dire aux effets produits sur les hommes. Et pourquoi on s'intéresse aux effets des lois produits sur les hommes ? Parce que on les évalue, justement. On veut savoir si elles conviennent, ces lois. Donc, vous voyez que l'étude des lois a une finalité pratique. Et dans toute la dernière partie de sa préface, Montesquieu insiste sur la vocation pratique de son ouvrage. Il souhaite avant tout faire œuvre utile en apprenant à tous, c'est-à-dire aussi bien gouvernants que gouvernés, à bien juger des lois. Et au paragraphe 13, vous voyez, il dit, c'est en haut à droite, il dit très clairement qu'il s'agira, c'est le paragraphe plutôt 14, non 13, je ne sais plus, 14. Il s'agit pour lui d'instruire les hommes pour les conduire à se guérir eux-mêmes de leurs préjugés. Hein. Je reprends les termes du texte. Il s'agit d'instruire les hommes pour, en quelque sorte, les conduire à se guérir de leurs préjugés qui faussent leur jugement en matière de législation. Et si je regarde très rapidement les paragraphes précédents, paragraphe 12 par exemple, il espère qu'à la lecture de l'esprit des lois, je cite, « ceux qui commandent augmentent leur connaissance sur ce qu'ils doivent prescrire ». Donc là, il s'adresse directement aux législateurs. Hein ? Que ceux qui commandent augmentent leur connaissance sur ce qu'ils doivent prescrire. Et quant à ceux qui obéissent, eh bien, ils souhaitent qu'ils puissent trouver un nouveau plaisir à obéir. Ben, ce n'est pas trop le cas en ce moment. Bon, on va leur donner un nouveau plaisir. Alors, vous voyez que, et de manière générale, si vous lisez le paragraphe 11, eh bien, Montesquieu espère que, je cite, « tout le monde ait de nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie et ses lois. » Donc, par la connaissance des lois qu'il compte procurer, eh bien, il voudrait contribuer à renforcer les sentiments qui attachent chacun des hommes à la vie collective de son pays, à sa patrie, à quelque niveau où il se situe. Regardez bien ce qu'il écrit, paragraphe 11. Paragraphe 11. Si je pouvais faire en sorte que tout le monde eût de nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses lois, qu'on pût mieux sentir son bonheur dans chaque pays, dans chaque gouvernement, dans chaque poste où l'on se trouve, je me croirais le plus heureux des mortels. Bon, ça c'est, vous voyez, son aspiration, son souhait. Il insiste sur l'utilité de son œuvre. Mais pour bien légiférer, ou, comme le disait aussi Montesquieu, pour proposer des changements, les bonnes intentions ne suffisent pas. Les bonnes intentions ne suffisent pas tant qu'on reste aveuglé par les préjugés qu'on a hérités de sa nation. Alors, par exemple, il ne suffit pas de dénoncer les maux qui affectent l'état présent du pays et révèlent des lois défaillantes pour intervenir judicieusement, pour établir de bonnes lois, des lois nouvelles qui permettent de corriger les lois anciennes. Justement, comme il l'explique dans le paragraphe 10, les législateurs ignorants, ceux qui sont aveuglés par leurs préjugés et qui ont de fausses certitudes, eh bien, ces législateurs, à quoi les reconnaît-on ? Ils n'éprouvent aucun doute. Aucun. Alors même qu'ils agissent sans discernement. Et le plus souvent, légifère brutalement. Je lis le paragraphe 10. Vous voyez, paragraphe 10. Il n'est pas indifférent que le peuple soit éclairé. Les préjugés des magistrats, magistrats, ça désigne au fond tous les gouvernants, les législateurs, de manière générale, les préjugés des magistrats ont commencé par être les préjugés de la nation. Dans un temps d'ignorance, on n'a aucun doute, même lorsqu'on fait les plus grands maux. Vous voyez ? Donc, voilà à quoi on reconnaît les mauvais législateurs. Aucune interrogation, aucun doute. Ils avancent, ils frappent. À l'opposé, les législateurs éclairés se reconnaissent à leurs scrupules, à leurs interrogations. Je lis, dans un temps de lumière, on tremble encore lorsqu'on fait les plus grands biens. Vous voyez ? Verbe est frappant. Dans un temps de lumière, on tremble encore lorsqu'on fait les plus grands biens. C'est-à-dire que ces législateurs craignent d'avoir mal fait, même lorsqu'ils font les plus grands biens. Et, comme le dit encore Montesquieu, ces législateurs se gardent de légiférer quand ils craignent que leur correction produise un mal pire encore que celui qui existe déjà. Je cite, vous voyez, regardez ces paragraphes 10. Alors, vous allez repérer, c'est à peu près au milieu. On sent les abus anciens, on en voit la correction. Mais on voit encore les abus de la correction même. On laisse le mal si l'on craint le pire, on laisse le bien si on est en doute du mieux. C'est clair. Bon. Et comme il le fera souvent d'ailleurs dans l'esprit des lois, Montesquieu met en garde contre la fureur législatrice qui consiste à promulguer des lois toutes les fois qu'on croit guérir d'un mal, un fait divers, un massacre, un meurtre, et hop, on fait une loi. Le lendemain, ça va apaiser l'opinion publique. Bon, on sait, on est habitué. Bon, ben, c'est un peu. Alors, c'est vraiment la pire des choses pour lui. C'est la pire des choses. On fait des lois à chaque fois. Et on en fait comme ça une quarantaine, sur le même sujet, en 3 ans. Et, comment dire, évidemment, ces lois risquent souvent de produire plus, de produire un mal encore pire que celui qui existe déjà. Ça n'arrange absolument pas la situation. Puis c'est une manière, aveugle de pratiquer la législation. Alors, pour intervenir de manière éclairée, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question que va se poser ici Montesquieu. Un législateur, s'il veut vraiment bien faire, il ne peut pas se limiter à porter son regard sur tel ou tel aspect particulier de la société, il ne peut pas se focaliser, par exemple, sur un problème particulier seulement. Il doit adopter un regard qui lui permette de l'appréhender dans son ensemble, comme en un tableau. Et je cite ici ce que Montesquieu écrit à la fin du paragraphe 10. Regardez bien ce qu'il écrit. On ne regarde les parties que pour juger du tout ensemble. On examine toutes les causes pour voir tous les résultats. Je reprends. On ne regarde les parties que pour juger du tout ensemble. On examine toutes les causes pour voir tous les résultats. Ainsi, un bon législateur ne voit pas les parties séparément, les unes après les autres. Il ne se focalise pas sur un mal particulier, mais il les regarde, il regarde toutes ces parties, il les regarde pour saisir ce qui les relie les unes aux autres, dans un tout ensemble. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il s'élève, et c'est ce qu'on va de mieux en mieux comprendre en lisant la suite du texte, il s'élève à ce que Montesquieu va appeler l'esprit des lois. L'esprit des lois, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est que l'esprit des lois? C'est ce regard instantané, qui permet de saisir l'ensemble des rapports qui expliquent, qui éclairent la singularité des lois et des mœurs d'une nation. Et au fond, c'est ça, avoir l'esprit des lois. C'est être capable de regarder le tout ensemble. Voyez. Pour mieux comprendre, si vous voulez, on peut se servir d'une analogie. On peut comparer, si vous voulez, le législateur à un homme qui, venant d'arriver dans une ville qu'il ne connaît pas, eh bien, cherche l'endroit le plus élevé, par exemple le clocher d'une église. Il cherche l'endroit le plus élevé pour voir d'un seul regard toute la ville. Vous voyez, c'est ça, avoir l'esprit des lois. Hein, c'est ça, saisir le tout ensemble. Et la plupart des législateurs, qui sont de mauvais législateurs, finalement, bah, ils ont le nez collé sur tel ou tel aspect, mais ils ne voient pas le tout ensemble. Et comme le remarque, comme le remarque déjà Montesquieu au paragraphe 9, il le remarquait déjà, il y a, c'est vrai, déjà des législateurs de ce type-là. Il y a des hommes, je regarde la fin du paragraphe 9, il y a des hommes, sans doute, qui sont assez heureusement nés, dit-il, pour pénétrer d'un coup de génie toute la constitution d'un État. Il y a des hommes capables de ça. Ça existe. Il y en a eu. Ils manifestent les qualités d'un bon législateur. Mais seulement, si Montesquieu rédige l'esprit des lois, c'est parce qu'il ne s'agit plus de s'en remettre à l'heureux hasard de la naissance. Hein ? Il pense, il est question pour lui d'apprendre à tous les hommes le regard qui leur permettra de voir en un coup d'œil toute une société, toute une nation, et d'être ainsi en mesure de bien juger de ses lois. C'est ça qu'il faut apprendre, finalement, aux législateurs, mais aux hommes de manière générale. Donc il s'agit bien d'instruire les hommes, comme il l'écrit au paragraphe 14. Et qu'est-ce que veut dire instruire les hommes? C'est-à-dire qu'il faut les sortir de leur ignorance. Mais comme il l'explique, l'ignorance n'est pas l'ignorance qu'on a des choses. Ce n'est pas celle-là dont il parle. C'est l'ignorance de soi-même. C'est l'ignorance dans laquelle on est de soi-même parce qu'on est dépendant des préjugés qui nous ont conditionnés et qui ont enfermé notre jugement. Et là, il faut lire avec beaucoup d'attention les paragraphes 13 et 14 de la préface. Je lis ces paragraphes 13 et 14, ils sont très importants. Je ne dirai pas les deux derniers hein, pour aller plus vite. « Je me croirais le plus heureux des mortels si je pouvais faire que les hommes puissent se guérir de leurs préjugés. » J'appelle ici préjugés, non pas ce qui fait qu'on ignore de certaines choses, mais ce qui fait qu'on s'ignore soi-même. C'est en cherchant à instruire les hommes que l'on peut pratiquer cette vertu générale qui comprend l'amour de tous. L'homme, cet être flexible, se pliant dans la société aux pensées et aux impressions des autres, est également capable de connaître sa propre nature lorsqu'on la lui montre, et d'en perdre jusqu'au sentiment lorsqu'on la lui dérobe. Alors voilà, un passage très important qui mérite une explication. Alors, en quel sens les hommes sont-ils ignorants d'eux-mêmes ? Ils sont ignorants d'eux-mêmes en ce qu'ils croient se connaître à partir des préjugés qu'ils ont reçus. Et Montesquieu a déjà eu l'occasion de l'expliquer dans ses fameuses lettres persanes, dont vous avez forcément entendu parler. Vous voyez, dans ces fameuses lettres persanes, les Parisiens rencontrent deux persans qui s'appellent Usbek et Rika, qui leur paraissent extrêmement étranges. Comment peut-on être persan ? Et ce qu'on comprend en lisant les lettres persanes, c'est que les Parisiens n'ont absolument aucune lucidité sur eux-mêmes, sur leurs habitudes, sur leur mode de vie, sur ce qu'on appelle leurs mœurs. Et il faut justement le regard étranger des deux persans pour révéler la singularité des mœurs des Parisiens, pour ne pas dire leur étrangeté. Alors on comprend ainsi que les hommes sont d'abord façonnés par la société dans laquelle ils vivent, dans laquelle ils ont vécu, quelle que soit d'ailleurs cette société, parce que les persans sont eux-mêmes ignorants d'eux-mêmes. Ils n'ont aucune distance par rapport à leurs propres mœurs. Et on comprend aussi que les hommes auraient été différents s'ils avaient vécu ailleurs, dans un autre monde humain, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une autre culture. Et pour reprendre la formule de Montesquieu, qui mérite ici vraiment notre lecture, l'homme, cet être flexible, se plie dans la société aux pensées et aux impressions des autres. Vous voyez, c'est très important cette formule. C'est-à-dire ce que l'homme se figure être, l'idée qu'il a de lui-même, de sa manière d'être, eh bien tout cela résulte d'abord des plis. Des plis qu'il a reçus des autres, autrement dit des préjugés. Des préjugés à travers lesquels il s'appréhende, sans aucun recul. Mais ce qu'il saisit ici de lui-même, ce n'est pas sa véritable nature. Ce qu'il croit connaître de lui-même, ce n'est pas sa véritable nature. Ce n'est là qu'une nature seconde, qu'une nature passive, qu'une nature subie. Sa véritable nature, c'est ce qu'il peut connaître lorsque l'instruction lui permet de se guérir de ses préjugés. Sa véritable nature est ce que Montesquieu appelle sa flexibilité. Flexibilité, voilà le terme important. C'est-à-dire que la nature de l'homme, c'est sa flexibilité, sa capacité à se modifier, à changer, à recevoir toutes sortes de plis, selon les circonstances. Et on comprend ainsi que la flexibilité de l'homme est à la source de la diversité humaine. C'est parce que les hommes, justement, sont flexibles qu'ils peuvent devenir toutes sortes de choses. Qu'il peut y avoir diverses cultures. Donc l'homme est flexible au sens où il est un être qui n'a pas de caractère immuable, contrairement à l'idée que ses préjugés lui donnent de lui-même. Ainsi, en permettant à chaque homme de se guérir de ses préjugés, l'instruction ne va pas guérir les hommes de leurs préjugés, elle va les amener à se guérir d'eux-mêmes de leurs préjugés. Donc, en permettant à chaque homme de se guérir de ses préjugés, c'est-à-dire de découvrir en lui-même, par la réflexion, sa flexibilité, eh bien, l'instruction lui donne les moyens de se distancier à l'égard de sa situation, vous voyez, à l'égard de sa culture, si vous voulez, pour employer un terme moderne, de se décentrer, en quelque sorte, d'adopter sur lui le regard de l'autre, le regard de l'étranger, et de s'interroger sur les fausses certitudes qu'il a sur sa situation et qui lui viennent de ses préjugés. Et par là, il va acquérir une capacité critique qui lui permettra de s'ouvrir à d'autres possibilités. Et c'est ça, au fond, la véritable instruction. Alors, il est temps maintenant d'aborder la lecture du premier livre. Je disais que c'est un livre assez court, 3 chapitres, mais très dense. Et évidemment, le premier chapitre est peut-être le plus important. Enfin, les 3 sont importants, mais le premier est peut-être le plus important des 3. Alors, le livre a pour titre « Des lois en général ». Donc, je disais qu'il comprend 3 chapitres. Alors, premier chapitre a pour titre « Des lois dans le rapport qu'elles ont avec les divers êtres ». C'est celui qu'on va lire ce soir. Ensuite, « Des lois de la nature », c'est le deuxième. Et ensuite, « Des lois positives », c'est le troisième. Je rappelle que « loi positive » veut dire « loi instituée ». Alors, pour faciliter la lecture du premier chapitre, je diviserai mon propos en 3 étapes. D'abord, j'ai mis ça sur le plan, hein. Je commenterai la définition générale des lois qui est donnée par Montesquieu dès le début du premier chapitre. Au fond, cette définition pose l'universelle légalité. C'est-à-dire que tous les êtres ont des lois. Et dans ce premier chapitre, la réflexion se situe à l'échelle cosmique. C'est l'univers entier qui est considéré. Ensuite, deuxième étape, si l'univers entier est régi par des lois, ce ne sont pas les mêmes lois qui régissent tous les êtres. Ils ont des lois différentes. Il y a des lois différentes selon le type d'être. Et on verra ensuite aussi que les êtres ne sont pas tous soumis à leurs propres lois avec le même degré de nécessité. C'est-à-dire qu'il y a des êtres qui sont plus ou moins soumis à leurs lois. Mais c'est une présentation que vous ne pouvez pas encore comprendre. Et puis, troisième point, troisième étape, cette réflexion nous conduira bien sûr à nous interroger sur la place de l'homme. Et alors, vous pourrez comprendre pourquoi, seul de tous les êtres, l'homme a besoin de faire des lois, pour construire un ordre politique qui va apparaître toujours très fragile. Vous voyez, les autres êtres n'ont pas besoin de faire des lois. Seul l'homme a besoin de faire des lois. Et les lois qu'il établit, c'est pour, au fond, conserver un ordre social. Mais cet ordre social, on verra, et on comprendra pourquoi, il ne peut être que précaire. Donc, vous voyez que l'intérêt de ce premier chapitre, c'est de nous montrer qu'on va passer d'une réflexion sur le cosmos, sur l'univers en son entier, à une réflexion sur les lois humaines, sur les lois positives. Alors, Là, vous avez le texte sous les yeux. Donc, le premier chapitre, il commence par l'énoncé d'une définition générale des lois, qui peut paraître extrêmement déconcertante. Je la lis. Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Rassurez-vous, nous allons avancer progressivement. Il faut le faire, hein, parce que sinon, on est perdu. Donc les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Alors, c'est une définition des lois en général, donc elle est censée convenir à toutes les lois, quelles qu'elles soient. Elle semble ainsi, à première vue, mettre dans le même sac des lois aussi différentes que les lois morales, les lois juridiques, et puis les lois établies par les physiciens lorsqu'ils étudient les phénomènes naturels, c'est-à-dire les lois scientifiques. Je dis bien, si à première vue, hein, je suis déconcerté, parce que j'ai l'impression que, par sa définition, Montesquieu met dans le même sac des lois très très différentes, qui n'ont rien à voir. Les lois morales et les lois juridiques prescrivent aux hommes leur conduite. Elles expriment des obligations. Elles disent ce que l'on doit faire. Ce sont des commandements qui s'adressent à l'homme en tant qu'il est un être conscient et libre. Et par conséquent, ce sont des commandements qu'il peut choisir de ne pas suivre ou auxquels il peut choisir de ne pas suivre ou de les suivre. Les lois scientifiques, quant à elles, elles expriment des rapports constants entre des variables observables. On va prendre un exemple. Il en donne un exemple. Des rapports constants entre des variables observables. Ce ne sont pas des obligations. Elles formulent une nécessité. Et Montesquieu en fournit un exemple au paragraphe 7. Regardez le paragraphe 7. Alors, ces règles sont un rapport constamment établi, je cite maintenant, entre un corps mu et un autre corps mu, c'est suivant les rapports de la masse et de la vitesse que tous les mouvements sont reçus, augmentés, diminués, perdus. Chaque diversité est uniformité, chaque changement est constant. Je vais expliquer. Qu'il s'agisse d'un morceau de pierre ou du corps d'un homme, la diversité des corps ne peut empêcher qu'ils soient soumis tous à des lois uniformes. Hein, que ce soit vous, votre corps, ou que ce soit n'importe quel autre corps, c'est pareil. Et c'est pourquoi Montesquieu écrit « Chaque diversité est uniformité ». Vous voyez ? C'est pareil pour tous les corps. Tous les changements, qu'ils soient augmentation, diminution ou annulation, tous les changements qui se produisent concernant les corps peuvent se ramener à des rapports constants entre des variables qui sont ici la masse et la vitesse. C'est-à-dire que les variables, par définition, justement, elles changent sans cesse, la masse, la vitesse, ça change, mais ce qui ne change pas, ce sont les rapports qui existent entre elles. Les rapports sont constants. Vous voyez, les variables changent, mais les rapports entre les variables ne changent pas. C'est pourquoi Montesquieu écrit « Tout changement est constance ». Voilà ce qu'il en est des lois de la physique. C'est assez simple à comprendre, on n'a pas besoin d'être un grand physicien pour le comprendre. Mais notre étonnement demeure. Que les lois qui gouvernent le monde soient toutes des lois rapports, soient toutes des rapports nécessaires, c'est une chose. Mais est-ce qu'il est légitime d'appliquer cette définition des lois aux lois morales, aux lois juridiques, sans nier leur spécificité, sans nier leur caractère d'obligation. Mais est-ce que, en définissant toutes les lois comme des rapports nécessaires, on n'est pas en train, au fond, d'appliquer à toutes les lois une définition qui vaut pour les corps physiques? Est-ce qu'en envisageant dès le départ donc cette définition générale des lois comme rapport nécessaire, eh bien, on n'est pas en train, au fond, d'effacer la spécificité des obligations? Vous voyez? Et nous retrouvons ici la question que nous nous posions en lisant la préface. Est-ce qu'il s'agit pour Montesquieu de renoncer, au fond, à toute conception normative de la loi, j'entends par conception normative de la loi, conception pour laquelle la loi dit ce qui doit être, ce qu'on doit faire, hein, c'est ça, la conception normative d'une loi. Est-ce qu'il renonce donc à toute conception normative de la loi pour ne retenir désormais que la définition scientifique qui prévaut dans le domaine physique pour aborder sous cet angle les affaires humaines? On est tenté de penser que Montesquieu va chercher à expliquer la diversité des lois et des mœurs qui existent dans les sociétés à la manière dont le physicien étudie les phénomènes naturels. On est tenté de penser qu'il va adopter une position déterministe qui consiste à expliquer les lois humaines comme des phénomènes, en dégageant les lois de leur production. Vous voyez ? C'est à ce moment-là, vous voyez, le seul sens scientifique de la loi, finalement, prévaut, étant entendu que les lois humaines sont traitées, au fond, comme des phénomènes à expliquer. Vous voyez ? C'est une lecture tentante, et un certain nombre d'interprètes ont lu comme ça Montesquieu. Seulement, elle ne correspond pas à ce qu'il écrit précisément. Et si je relis la définition qu'il donne, et je la relis une deuxième fois, les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Vous voyez bien que, ici, Montesquieu considère les lois, je cite, « dans la signification la plus étendue ». Il faut faire attention à ça. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il retient leur dénominateur commun. Il retient le dénominateur commun à toutes les lois. Mais ça ne veut pas dire qu'il les assimile. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes identiques. Il dégage ce qu'elles ont toutes en commun sans pour autant les confondre. Et donc, comme d'ailleurs ça va se préciser, la définition qu'il donne au départ des lois en général n'implique aucunement que les lois qui régissent les divers êtres sont identiques. Puisqu'au contraire, les lois se différencient, je cite, selon la nature des choses dont elles dérivent. Les lois, elles sont différentes selon la nature des choses auxquelles elles s'appliquent. Et là, regardez tout simplement ce que dit Montesquieu dans le paragraphe 1, après la définition. Et dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois. Et regardez, il cite les uns à la suite des autres, les êtres différents. La divinité a ses lois. Le monde matériel a ses lois. Les intelligences supérieures à l'homme ont leurs lois. Les bêtes ont leurs lois. L'homme a ses lois. Tous les êtres ont leurs lois. Donc, voyez que la définition des lois comme rapport nécessaire convient, oui, à toutes les lois, quelles qu'elles soient, mais elle ne signifie pas leur uniformité. Car elles sont aussi diverses qu'il y a de types d'êtres auxquels elles se rapportent. Ou pour reprendre les termes de Montesquieu, toute loi est un rapport nécessaire, mais il y a autant de rapports nécessaires, différents, qu'il y a de types d'êtres. Vous voyez ? Alors, Maintenant, la question qui se pose, mais quel est l'intérêt d'une telle définition ? Bon, je fais bien, j'ai compris, il ne confond pas. Enfin, pourquoi une telle définition ? Il peut paraître tout de même étrange que Montesquieu formule une définition générale des lois dont l'énoncé s'inspire tout de même des lois formulées par les physiciens, même s'il évite toute confusion. Il s'inspire tout de même de la définition que les physiciens donnent des lois, hein, même s'il ne les confond pas, même s'il ne confond pas toutes les lois. Eh bien, je voudrais ici montrer que cette définition a un double intérêt. Premier intérêt, il s'agit de montrer, évidemment, ça c'est, vous le savez déjà, mais je le redis, il s'agit de montrer que le monde matériel n'est pas le seul à être gouverné par des lois. C'est le cas aussi de ce qu'il va appeler le monde intelligent, c'est-à-dire des êtres intelligents. C'est ce qu'il va aussi dire des sociétés humaines. Vous voyez ? Donc non, ne croyez pas qu'il y a de la nécessité, qu'il y a de la régularité uniquement que dans le monde physique. Il y en a aussi dans le monde humain. Alors non, bien sûr que, encore une fois, que les lois qui régissent ces mondes qui sont différents soient identiques. Mais si vous considérez, par exemple, les affaires humaines, eh bien, vous pourrez dire, comme déjà le disait Montesquieu dès la préface, qu'elles ne relèvent pas simplement des fantaisies. C'est-à-dire que les lois et les mœurs ont une raison d'être. Il y a une rationalité dans les affaires humaines. Il y a une rationalité qui régit la diversité des lois et des mœurs. Ce n'est pas un domaine irrationnel. Il y a une rationalité dans les affaires humaines, comme il y a une rationalité dans la nature, dans la nature, vous avez des lois qui expliquent la chute des corps, par exemple. Bon, et c'est ce sur quoi, déjà, insistait Montesquieu dans sa préface. Et de manière générale, tous les êtres, quels qu'ils soient, sont régis par des lois, c'est-à-dire, au fond, que veut surtout montrer, grâce à cette définition générale, Montesquieu, c'est que l'univers entier est rationnel et intelligible. Ce qui, encore une fois, ne signifie pas que les mêmes lois s'appliquent à tous les êtres uniformément. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire de Montesquieu le partisan d'un déterminisme universel s'appliquerait à tous les êtres, indistinctement. Donc ça, c'est le premier intérêt de la définition. Deuxième intérêt de cette définition, c'est que cette définition permet d'écarter une conception extrêmement répandue des lois, selon laquelle elles sont la pure expression de la volonté d'un être. C'est-à-dire que quand on pense aux lois spontanément, on entend par loi un commandement. C'est-à-dire l'expression d'une volonté. Au fond, la loi s'explique par la décision d'une volonté. Voilà comment nous l'entendons ordinairement. Eh bien, c'est justement cette conception de la loi que veut écarter Montesquieu. Alors, il ne s'agit pas de nier que les lois qui sont, par exemple, instituées par les hommes, les lois positives, il ne s'agit pas de nier qu'elles soient le fait d'une volonté. Ce sont des lois qui sont voulues, bien sûr. Il ne s'agit pas de le nier. Mais définir les lois, y compris les lois instituées, comme des rapports nécessaires, c'est refuser de réduire ces lois à la pure et simple décision d'une volonté. C'est-à-dire que définir ces lois qui sont instituées comme des rapports nécessaires, c'est montrer qu'elles ont des raisons. C'est montrer qu'elles ont des raisons, qu'elles peuvent se comprendre, qu'elles peuvent s'expliquer, que la raison, elles ont des raisons que la raison peut chercher à connaître. Elles ne sont pas irrationnelles. Elles ne sont pas l'œuvre de fantaisie, le produit de fantaisie. Et comme on le verra, et ça c'est très important, on peut déjà le dire, le seul cas dans le monde politique où les lois se réduisent au seul décret d'une volonté, c'est celui du despotisme. C'est celui du despotisme. Et le despotisme, c'est, par excellence, le régime politique où triomphe l'arbitraire. C'est le régime de l'arbitraire. Mais au fond, ce ne sont pas vraiment des lois. Ce sont des décrets de la volonté, mais ce ne sont pas vraiment des lois. Vous voyez ? Une loi a quelque chose de stable et elle a des raisons d'exister. Là, c'est le caprice qui décide. Et évidemment, pour Montesquieu, vous comprendrez très vite que pour Montesquieu, le mal, c'est l'arbitraire. Donc, vous voyez que la définition générale des lois comme un rapport nécessaire s'étend à tous les êtres, y compris à Dieu, et ce que nous venons de dire des lois humaines, donc des lois positives, eh bien, vaut aussi pour les lois de l'univers qui sont créées par Dieu. Et ça, il faut en parler. Alors, pour Montesquieu, il y a une création. Qu'est-ce que c'est qu'une création ? C'est un acte de la volonté divine. C'est Dieu qui fait exister le monde. Bon. Donc, il y a création parce qu'il y a volonté divine. Mais comme y insiste Montesquieu, la création divine n'est pas réductible à l'acte arbitraire de cette volonté. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un monarque capricieux qui agit selon son bon plaisir, par décret, par simple décret, comme un despote. Il agit, et c'est ce que nous allons comprendre, il agit selon ce que Montesquieu nomme la raison primitive. Le terme apparaît au paragraphe 3. Il y a une raison primitive. Et qu'est-ce que c'est que la raison primitive ? Au fond, c'est la raison qui constitue la sagesse de Dieu. C'est-à-dire Dieu, la divinité a des lois au sens où elle est constituée justement par la raison primitive. Elle obéit à la raison primitive. Ce qui fait que nous connaissons Dieu, c'est que nous le connaissons comme un être juste et bon. C'est l'idée que nous en avons. Et donc, au fond, la sagesse divine, c'est ce qui constitue la nature de Dieu. Et Dieu n'y peut rien, hein. Il est comme ça, par nécessité. Alors, voyez ce que montre Montesquieu. Alors, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il peut écrire, hein, je l'ai dit, la divinité a ses lois. Car que la puissance de la volonté divine, sa volonté, la puissance de la volonté divine est juste nécessaire pour faire exister des lois qui régissent tous les êtres de l'univers et qui découlent de la raison primitive qui est en Dieu. C'est-à-dire que ces lois, si vous voulez, elles existent déjà comme possible avant d'être mise en œuvre par la volonté divine. Au fond, l'acte de création ne fait jamais que faire passer à l'existence, finalement, cette raison primitive qui existe de toute éternité. Hein. Donc, la raison primitive, c'est l'axiome fondamental de l'esprit des lois. Elle est primitive au sens où elle est au principe des lois qui gouvernent tous les êtres et président à leur création. C'est-à-dire, au fond, elle est ce qui fait que l'univers est rationnel, que sa légalité est universelle. Et si l'univers est rationnel, si tous les êtres ont des lois, ça veut dire, au fond, que la raison peut les connaître. Vous voyez ? C'est ça, l'idée de base de Montesquieu. Vous voyez ? Et, alors, évidemment, dire comme Montesquieu que la divinité a ses lois, il n'en fallait pas plus pour faire interdire la publication de l'esprit des lois. L'esprit des lois était interdit. Il était mis à l'index. Les théologiens de la Sorbonne, les ordres ecclésiastiques comme celui des jésuites, les jansénistes du XVIIIe siècle, c'est pas les mêmes de ceux du XVIIe siècle, mais il y avait des jansénistes au XVIIIe siècle. Donc, eh bien, tous ces gens-là ont vu très vite en Montesquieu, en lisant la première phrase, le premier paragraphe, ils ont très vite vu en Montesquieu un spinoziste. Oh, ah là là là. Un spinoziste. Alors, vous savez, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un spinoziste. Un spinozisme, c'est la doctrine de Spinoza, du philosophe hollandais Spinoza, qui a fait paraître son grand livre, l'Éthique, en 1670. Et qui est présenté toujours à l'époque comme vraiment un auteur qu'il ne faut pas lire. Hein. Il s'en souffre. Parce qu'au fond, sa doctrine est considérée comme un athéisme. Alors, je dis juste deux mots sur Spinoza, pour que vous en compreniez au moins un minimum, tout de même, pour situer les choses. Dans son éthique, Spinoza identifie Dieu à la nature. Dieu, pour Spinoza, n'est rien d'autre que la nature, c'est-à-dire au fond le réel, la réalité, en sa totalité. Dieu, c'est la réalité. Toute la réalité, c'est Dieu. Et donc, vous voyez que pour Spinoza, Dieu n'est pas une volonté créatrice. Ce n'est ni un créateur, ni un législateur, puisque Dieu, c'est la nature qui s'auto-déploie, qui s'auto-produit. Parce que la nature, elle se produit. Elle se produit et elle se produit à travers chacun de ses êtres, à travers chacune de ses parties, et l'homme est une partie de la nature. Nous sommes des parties de Dieu, en ce sens-là. Parce que nous participons de cette infinie productivité de la nature, finalement. Vous voyez, au fond, Dieu, c'est le processus de la nature qui s'auto-engendre. C'est ça. Dieu, c'est la nécessité absolue, si vous voulez, qui se déploie. Donc, Dieu n'est rien de personnel. Dieu n'est pas une volonté. Vous voyez ? Alors, évidemment, pour les théologiens de l'époque, pour une grande partie des hommes, cette doctrine est un athéisme. Dans la mesure où Spinoza nie que Dieu soit une volonté, soit une personne, évidemment, il est athée. Alors que, pour Spinoza, il ne s'agit pas vraiment d'un athéisme. Bon. Mais voilà la lecture qu'on fait de Spinoza. Et ici, évidemment, quand Montesquieu écrit que la divinité a ses lois, eh bien, il est accusé de faire comme Spinoza, c'est-à-dire de supprimer toute liberté divine, parce que, évidemment, pour les théologiens, la liberté, c'est le libre arbitre de Dieu, en quelque sorte. Hein. Et il est accusé de supprimer ainsi donc toute liberté divine et de soumettre Dieu à une nécessité absolue. On ne comprenne pas Spinoza, mais c'est comme ça qu'ils le comprennent. Et voilà pourquoi, quand ils lisent le premier paragraphe, ils sont horrifiés. Ils voient un spinoziste masqué derrière Spinoza, derrière Montesquieu, sort. Il s'adresse à Montesquieu en disant « Spinoza sort de ce corps. » Bon. Et évidemment, c'est ainsi qu'il est rejeté. Pourtant, si vous lisez bien le texte, vous voyez bien que Montesquieu admet l'idée d'une création. Il se démarque de Spinoza en ce sens. D'ailleurs, comme il se démarque, et on va regarder le paragraphe 2, comme il se démarque de tous ceux qui, par ailleurs, soutiennent ce qu'on appelle à l'époque l'idée d'une fatalité aveugle. Regardez bien le second paragraphe. Ceux qui ont dit qu'une fatalité aveugle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde ont dit une grande absurdité. Car quelle plus grande absurdité qu'une fatalité aveugle qui aurait produit des êtres intelligents ? Je reviens là-dessus. Alors, il y a Spinoza, évidemment, qui s'en souffre, mais il y a aussi tous les auteurs matérialistes. Ceux qui défendent la thèse d'une fatalité aveugle. Et à qui peut-on penser? Eh bien, par exemple, à ce poète et philosophe latin qui s'appelle Lucrèce, qui a écrit le De Natura Rerum, de la nature des choses, et pour lequel, évidemment, le monde résulte d'une combinaison aléatoire d'atomes. Le monde, c'est un assemblage aléatoire d'éléments matériels qu'on appelle les atomes. C'est le hasard, finalement, qui préside à l'organisation des choses. Ça aurait pu être autrement, voyez. Alors évidemment, comment il s'appelle, Lucrèce, c'est le disciple d'Épicure. Hein. Bon, mais voilà, un philosophe, voyez, qui défend la thèse d'une fatalité aveugle. Alors qu'est-ce que lui rétorque Montesquieu? Et qu'est-ce qu'il rétorque à cette thèse? Qu'elle est absurde. Et il fait une sorte de réfutation par l'absurde. C'est-à-dire que cette thèse, dit-il, revient à prétendre qu'une fatalité aveugle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde. Et elle est absurde parce qu'effectivement, elle admet une disproportion entre la cause c'est une matière aveugle, et puis l'effet qu'elle produit, à savoir des êtres intelligents. C'est-à-dire ce qui est absurde dans la thèse de la fatalité aveugle, c'est que la cause produit plus qu'elle-même. Vous voyez, il y a une disproportion entre la cause et puis l'effet. Donc, au fond, énoncer ce genre de thèse, c'est énoncer une grande absurdité. Et Montesquieu conclut au début du troisième paragraphe, il y a donc une raison primitive. C'est-à-dire que, par conséquent, les lois de l'univers impliquent l'existence de Dieu, dont l'acte créateur met en œuvre la raison primitive, hein, qui constitue sa sagesse. Donc, alors, tout ça est rapidement mené. Hein. Vous avez remarqué que Montesquieu ne s'étend pas sur le sujet. Hein. Son ouvrage commence par des considérations d'ordre métaphysique, mais son souci, c'est pas de rédiger ici un traité métaphysique. Hein. Il est rapide, hein, dans sa réfutation. Il n'en dit pas plus. Son projet, c'est pas d'écrire un traité métaphysique, mais il a juste besoin, si vous voulez, du minimum métaphysique pour fonder son étude des lois humaines. Il faut, vous voyez, il a besoin de dire que l'univers est rationnel, hein, pour effectivement pouvoir aborder les lois humaines et comprendre justement leur rationalité. Voilà sa démarche. Donc, au fond, vous voyez, tout ça est expédié rapidement, hein, il ne s'étend pas sur le sujet, il se contente d'une réfutation par l'absurde, effectivement, de la thèse matérialiste, du fatalisme aveugle, et il passe à autre chose. Hein. Bon, mais, encore une fois, n'allons pas croire que parce qu'il maintient l'idée d'une création, Montesquieu conclut au caractère arbitraire de cette création. Parce que c'est comme ça que souvent on entend la création, ce qui aboutirait à ruiner toute idée d'intelligibilité du monde. Le monde est intelligible, donc la création n'est pas arbitraire. La création n'est pas arbitraire, et comme d'ailleurs l'explique Montesquieu au paragraphe 6, loin que la création soit arbitraire, elle est l'œuvre d'une volonté divine gouvernée par la fameuse raison primitive. Je lis paragraphe 6, lisez avec moi. Ainsi, la création, qui paraît être un acte arbitraire, suppose des règles aussi invariables que la fatalité des athées. Il serait absurde de dire que le créateur, sans ces règles, pourrait gouverner le monde, puisque le monde ne subsisterait pas sans elles. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que, je ne suis pas Spinoza, mais finalement, j'arrive à peu près à la même conclusion. Donc, il n'arrange pas son affaire, hein, tout de même. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, bien sûr, quand il parle, cette fois, de la fatalité des athées, c'est à Spinoza, hein, qu'il pense, évidemment. Donc, vous voyez, le point de départ, la fameuse définition générale des lois. J'en viens maintenant à l'examen des lois qui régissent les différentes catégories d'êtres auxquelles elles se rapportent. Et, conformément à la définition générale des lois, ces lois sont toutes, je répète, des rapports nécessaires. Des rapports nécessaires qui dérivent de la nature de la catégorie d'êtres à laquelle elles se rapportent. Alors, on est d'accord là-dessus. Tout ça, c'est bien acquis. Alors maintenant, si vous examinez la liste des êtres qui est présenté au début par Montesquieu, au premier paragraphe, ben vous êtes frappé par deux choses étranges. Il y a deux choses étranges dans cette liste. D'une part, l'ordre de cette liste est étrange. Vous allez voir pourquoi. Et ensuite, vous notez la présence étrange dans cette liste de ces êtres que Montesquieu appelle les intelligences supérieures à l'homme. Bizarre. Donc effectivement, faut expliquer ça, faut interroger là-dessus. Alors, quelle est cette liste ? Je la reprends. La divinité a ses lois, le monde matériel a ses lois, les intelligences supérieures à l'homme ont leurs lois, les bêtes ont leurs lois, l'homme a ses lois. Alors, qu'est-ce qui est étrange ? On pourrait s'attendre à ce que les êtres soient placés en fonction de leur degré d'importance, en fonction de la place qu'ils occupent dans l'univers. On pourrait ainsi s'attendre à ce que cet ordre qui part de la divinité, c'est-à-dire de ce qui est le plus élevé, aille progressivement vers ce qu'il y a de plus bas, c'est-à-dire le monde matériel. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe, puisque le monde matériel est situé en deuxième position. Bizarre tout de même. On devrait ainsi aller de Dieu au monde matériel en passant par les intelligences supérieures à l'homme, puis les hommes, puis les bêtes, et enfin, le monde matériel. Or, ce n'est absolument pas le cas, puisque le monde matériel, je viens de vous le dire, vient aussitôt après Dieu dans la liste. Alors, si on réfléchit, si on reprend cette liste, on peut remarquer tout de même que la disposition des êtres qui sont ici examinés relève d'une démarche par encadrement successif dont l'homme est à chaque fois le centre. Je vais expliquer. Donc une démarche par encadrement successif. Vous avez d'abord, si vous regardez les deux premiers êtres, un premier intervalle dont les limites sont Dieu et le monde matériel. Un premier intervalle avec d'un côté comme limite Dieu, de l'autre côté comme autre limite, comme limite opposée, le monde matériel. Et l'homme se trouve au centre, forcément. Vous avez ensuite, si vous lisez la suite de la liste, vous avez ensuite un deuxième intervalle dont les limites, cette fois, sont les intelligences supérieures à l'homme. Et puis, à l'opposé, les bêtes, qui sont des créatures sensibles, qui sont des êtres sensibles. C'est-à-dire que, et vous voyez bien que ce deuxième intervalle, il est inclus dans le premier. Il est inclus dans le premier. Et à chaque fois, l'homme se trouve au centre. L'homme se trouve au centre du deuxième intervalle, puisque l'homme est entre les intelligences supérieures à l'homme et puis les bêtes. Puisque l'homme est à la fois intelligent et sensible. Donc vous voyez, vous avez deux encadrements, dont vous avez deux intervalles, dont le deuxième est inclus dans le premier. Donc vous voyez comment procède ici Montesquieu. Mais quel est l'intérêt, parce que bon, tout ça c'est bien gentil, mais quel est l'intérêt de cette disposition? Eh bien, vous allez comprendre, en suivant le mouvement du texte, que plus on avance dans la liste, plus on avance dans l'examen des êtres qui composent cette liste, plus on va vers l'homme et plus les choses se dégradent. Les deux premiers êtres, d'ailleurs Dieu et le monde matériel, suivent leurs lois de manière implacable. Dieu est toujours sage, je ne peux pas être autre chose que sage. Et bon. Allez. Il ne déroge pas à ses lois. Le monde matériel, c'est pareil. Alors, pas pour les mêmes raisons, mais les êtres matériels suivent nécessairement leurs lois, de manière implacable. Si vous ne me croyez pas, sautez par la fenêtre, on verra si vous ne tombez pas. Ça s'applique invariablement. Donc voilà pour les deux premiers, voilà pour ces deux êtres. Ensuite, les êtres intelligents qui sont abordés, vous verrez qu'ils ne suivent pas leurs propres lois aussi rigoureusement. C'est ce que va montrer ici Montesquieu. Les êtres intelligents ne suivent pas leurs lois de façon aussi rigoureuse. Les bêtes non plus. On verra que les bêtes non plus ne suivent pas leurs lois de manière rigoureuse, implacable. Et quant aux hommes, alors là, qui sont à la fois des êtres intelligents et sensibles, alors là, c'est pire. C'est pire. Donc, vous voyez, l'intérêt de cet ordre, c'est qu'il va nous permettre de comprendre que les hommes sont parmi les êtres ceux qui suivent leurs lois avec le moins de constance. Ceux qui suivent leurs lois avec le moins de constance. C'est-à-dire que tous les êtres ont leurs lois. Les lois sont toutes des rapports nécessaires. Mais comme on va le voir, ce sont des rapports nécessaires plus ou moins suivis. Ce sont des rapports nécessaires plus ou moins suivis. Et là où elles sont le moins suivies, là où le degré de nécessité est le plus bas, c'est l'homme. Vous voyez ? Ce sont, il y a des rapports, les lois sont toutes des rapports nécessaires, mais dont le degré de nécessité varie en fonction de la nature des êtres dont ils dérivent. Alors, la nécessité est parfaite aux deux bouts de la chaîne, quand il s'agit de Dieu et du monde matériel. Elle est moindre concernant les intelligences et les bêtes, et encore bien moindre concernant l'homme, qui est à la fois intelligent et sensible. Et vous comprenez ainsi que l'intérêt de l'ordre de cette liste, qui au départ pouvait nous paraître étrange, c'est que cet ordre n'a d'autre but que de montrer que parmi tous les êtres, l'homme se définit comme l'être qui est le moins soumis à la nécessité. Il est l'être le moins déterminé, car il est enclin à se soustraire aux lois, notamment qui déterminent son intelligence, c'est ce qu'on va voir. Il dispose d'une liberté. Il dispose d'une liberté qui apparaît comme un pouvoir d'infraction, comme un pouvoir de dérogation, de transgression. Vous voyez, le libre arbitre va apparaître comme un pouvoir de désobéissance, d'une certaine façon, aux lois, qui constitue l'intelligence de l'homme. Et je le dis déjà, mais enfin, on aura peut-être l'occasion de le redire et de le revoir. Sur ce point, Montesquieu se démarque de Spinoza. Il se démarque de Spinoza. Pour Spinoza, bon, tant pis si vous ne le comprenez pas, mais j'en dis un minimum. Et pour Spinoza, le libre arbitre, c'est une illusion. C'est une illusion qui repose sur l'ignorance des causes qui nous déterminent. Bon. Et cette illusion aboutit à se représenter l'homme comme un empire dans un empire. Hein, c'est l'expression qu'il emploie. C'est-à-dire un empire dans un empire, le deuxième empire étant la nature. C'est-à-dire l'homme serait une sorte de monarque au sein de la nature, hein, si vous voulez. C'est comme ça que les hommes se représentent la place de l'homme dans la nature en le croyant doté d'un libre arbitre. Eh bien, à sa manière, Montesquieu, oui, affirme que l'homme est un empire dans un empire. Dans la mesure où il a la capacité de s'écarter des lois auxquelles son créateur l'a assujetti. C'est vrai. Seulement, il ne tombe pas dans un discours religieux. Il ne tient pas un discours religieux. Il ne va pas faire comme saint Augustin ou Pascal qui vont expliquer cet écart, la possibilité de cet écart par rapport à la loi divine par le péché originel. Vous n'avez pas de discours de ce type-là chez Montesquieu. Vous voyez ? Bon, mais je continue. Alors, deuxième étrangeté, la catégorie des intelligences supérieures à l'homme, que Montesquieu appelle plus loin les êtres particuliers intelligents. C'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais enfin bon, on va pas entrer dans la complexité. Alors, qu'est-ce qu'il désigne de cette façon, Montesquieu ? Alors, je dirais ici que la question intéressante, c'est pas de savoir si ces intelligences correspondent à des êtres réels, s'il y a des anges ou je ne sais quoi. C'est pas ça l'intérêt, franchement. Non, ce qui est intéressant, c'est de comprendre la fonction que ces êtres occupent dans le dispositif de l'argumentation. Au fond, c'est l'ordre de l'argumentation, c'est l'ordre de la liste qui nous va nous permettre de comprendre la fonction qu'occupent ces êtres. Je m'explique. Ces êtres permettent d'envisager l'intelligence séparément de la sensibilité, alors que en l'homme, l'intelligence et la sensibilité sont réunies. L'homme est un être à la fois intelligent et sensible. Donc, on va pouvoir, vous voyez, grâce à ces êtres, à la conception de ces êtres, on va pouvoir envisager l'intelligence indépendamment de la sensibilité et on va pouvoir ainsi comprendre ce qui relève seulement de l'intelligence. Et vous voyez que la catégorie des êtres particuliers intelligents autorise alors à déduire les lois morales qui gouvernent l'intelligence, que tout être intelligent découvre en son intelligence comme des lois, justement, qu'il n'a pas faites, car elles lui viennent de son créateur et préexistent à sa création. Je reprends ce que je viens de vous dire, qui peut vous paraître bizarre. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on va comprendre en considérant justement ces êtres particuliers intelligents, c'est que l'intelligence de ces êtres, eh bien, elle est gouvernée par des lois, par des rapports d'équité, va dire Montesquieu, par des lois morales qui lui viennent de Dieu, qui lui viennent, au fond, du créateur, de la raison primitive. C'est-à-dire que ces lois morales qui vont définir ce qui est juste et ce qui est injuste, elles ne sont pas faites par l'être intelligent, elles sont découvertes en lui par son intelligence. C'est-à-dire que en consultant son intelligence, cet être découvre ces lois comme des lois qu'il n'a pas faites lui-même, mais qui lui viennent, au fond, de Dieu, qui lui viennent de la raison primitive de Dieu. Alors, je reprends. Est-ce que c'est clair, ça? Pas encore? C'est peut-être encore plus. On va avoir à le redire. Mais comme le remarque Montesquieu au paragraphe 10, je lis. Mais il s'en faut bien que le monde intelligent soit aussi bien gouverné que le monde physique. Je reprends. Mais il s'en faut bien que le monde intelligent soit aussi bien gouverné que le monde physique. C'est-à-dire qu'il s'en faut beaucoup, en effet, pour que les êtres intelligents suivent toujours les lois morales qu'ils découvrent dans leur intelligence et qui leur disent ce qui est juste et ce qui est injuste. Puisque, encore une fois, ces lois morales que nous découvrons dans notre intelligence, elles nous disent ce qui est juste et ce qui est injuste. Et ce n'est pas nous qui en avons décidé. C'est notre intelligence qui contient en elle, en quelque sorte, ces règles de justice. Vous voyez ? Et alors, nous découvrons ces règles comme des lois que nous n'avons pas faites, mais ce n'est pas pour autant que nous allons les suivre. Ce n'est pas parce que nous savons ce qui est juste et qui est injuste en prenant connaissance finalement de ces lois que nécessairement nous allons les suivre. Vous voyez, c'est ce que va montrer ici Montesquieu. Et pour quelle raison ? Pour quelle raison les êtres intelligents ne suivent pas toujours les lois morales qu'ils découvrent dans leur intelligence ? Pour deux raisons qui sont expliquées par paragraphe 10. Alors, d'une part, parce que leur intelligence est bornée, et peut faire erreur sur ce qu'elle croit juste. Comme dit Montesquieu, vous voyez, en haut, à droite, colonne de droite, en haut, la raison en est que les êtres particuliers intelligents sont bornés par leur nature et par conséquent sujets à l'erreur, vous voyez. Et puis, d'autre part, parce que même quand ils savent parfaitement ce qu'ils doivent faire, même quand ils savent parfaitement ce qui est juste et injuste, eh bien, les êtres intelligents peuvent ne pas le faire, peuvent ne pas suivre, justement, ces lois. C'est-à-dire qu'ici, je cite encore Montesquieu, et d'un autre côté, il est de leur nature qu'ils agissent par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont libres. C'est-à-dire que les êtres intelligents sont libres de ne pas suivre justement les lois qu'ils découvrent dans leur intelligence, ces lois morales qu'ils découvrent dans leur intelligence. Et c'est ce qui fait dire à Montesquieu, je cite, qu'ils ne suivent donc pas constamment leurs lois primitives, c'est-à-dire ces lois viennent effectivement de Dieu, ces lois de justice, si vous voulez, qui sont en leur intelligence et qu'ils découvrent. C'est la conséquence, que les êtres particuliers intelligents, notamment les hommes, du fait de leur inconstance, du fait qu'ils ne suivent pas nécessairement les lois qu'ils découvrent dans leur intelligence, c'est ce qui explique que ces êtres intelligents puissent avoir besoin de faire des lois pour gouverner les sociétés. C'est-à-dire que si les hommes suivaient toujours nécessairement les lois de leur intelligence, s'ils faisaient toujours nécessairement ce qui est juste, ils n'auraient pas besoin d'instituer des lois. Ils vivraient harmonieusement ensemble. Vous voyez ? Ils n'auraient pas besoin qu'il y ait des lois pour organiser la société et les contraindre. Bon. Mais c'est bien parce que, justement, les êtres intelligents sont des êtres qui peuvent toujours déroger aux lois de leur intelligence, eh bien, qu'ils sont injustes, par conséquent, qu'il va falloir instituer dans les sociétés des lois qui évitent évidemment que l'injustice ne fasse des ravages, qui évitent évidemment que l'injustice détruise la coexistence des hommes. Donc, voyez, si je résume, les êtres intelligents, ils sont soumis à deux catégories de lois. Il y a les lois d'abord qu'ils n'ont pas faites, qu'ils découvrent dans leur intelligence, mais qu'ils ne suivent pas toujours, puisqu'ils peuvent se comporter de manière injuste. Et puis, il y a les lois qu'ils ont faites, c'est-à-dire les lois qu'ils ont instituées pour organiser une société, et qu'ils ont instituées parce que, justement, ils ne suivent pas les premières. Seulement, même quand ils ont institué des lois pour organiser les sociétés, ils ne les suivent pas non plus toujours. C'est-à-dire que la désobéissance, elle va concerner non seulement les lois qu'ils n'ont pas faites, mais aussi celles qu'ils ont faites. Et c'est pour ça que l'ordre politique des sociétés va s'avérer un ordre constamment fragile, précaire. Vous voyez ? Bon, on comprend ça déjà. Toujours est-il que les lois qui sont établies par les hommes, donc les fameuses lois positives, les lois qu'ils ont faites, ne sont pas justes. Elles ne sont pas justes du seul fait qu'elles ont été instituées. Les lois instituées ne sont pas justes tout simplement parce qu'elles existent. Elles sont justes seulement si elles sont conformes aux lois primitives de justice. Vous comprenez ce que je dis là ? Ce qui fait qu'une loi que nous établissons est juste, c'est si elle est conforme, au fond, aux lois de justice que nous découvrons dans notre intelligence et que nous n'avons pas faites. Bon, vous avez compris ce point-là. Et là, il faut lire très attentivement ce que dit Montesquieu, paragraphe 8. Regardez bien, je lis un passage. Je ne lis pas tout, mais je lis un passage. La fin. Disons la moitié. Avant qu'il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles. Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste, que se coordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu'on eût tracé de cercle, tous les rayons n'étaient pas égaux. Alors là, ça mérite un commentaire et j'y reviendrai. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que veut surtout montrer Montesquieu et surtout à qui il pense ici ? À qui il fait référence implicitement ? À un autre philosophe très important, sur le plan de la philosophie politique, un Anglais, écrit effectivement au XVIIe siècle, s'appelle Thomas Hobbes, qui a écrit un livre, s'appelle Le Citoyen, en 1642. Et vous, je vous ai photocopié, je crois, non, vous n'avez pas ? Ah si, oui, il est là en bas à droite. Un extrait de ce que dit Hobbes dans ce Citoyen, je lis, il suffit de lire. Avant qu'il y eût des gouvernements dans le monde, il n'y avait ni juste ni injuste, parce que la nature de ces choses est relative au commandement qui les précède, et que toute action est de soi-même indifférente. Restons-en là. C'est-à-dire, au fond, sur l'Europe, finalement, tant qu'il n'y a pas de gouvernement, tant qu'il n'y a pas un gouvernement qui institue des lois, tout est possible, on a le droit de tout faire. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de juste et d'injuste. Vous voyez ? C'est-à-dire, au fond, l'idée de Hobbes, c'est que n'est juste que ce qu'un gouvernement déclare comme tel. C'est-à-dire qu'au fond, la thèse de Hobbes, on l'appelle une thèse positiviste. C'est-à-dire que la seule justice qui existe, c'est celle des lois qui sont établies. Et juste ce que le souverain déclare juste. Voilà, c'est tout. Vous ne pouvez pas contester, au fond, la justice établie par le souverain au nom d'un principe supérieur que vous appelleriez la justice. Non, il n'y a pas d'autre justice que celle des lois qui sont établies. Et c'est à cette thèse que s'oppose ici Montesquieu. C'est-à-dire que, évidemment, pour lui, il y a des rapports de justice, des rapports d'équité antérieurs à l'établissement des lois positives, et ces rapports d'équité, ce sont les lois que les hommes n'ont pas faites, qu'ils découvrent dans leur intelligence, et qui leur fournissent la norme du juste et de l'injuste. Donc, et alors, comment il fait Montesquieu pour montrer que la thèse de Hobbes est absurde ? Eh bien, il recourt à une analogie avec la géométrie. C'est pas compliqué, je vous déploie cet argument. De même que les cercles ne sont pas circulaires du fait que vous les tracez. Ils ne sont pas devenus circulaires parce que vous les avez tracés, les cercles. Hein, d'accord ? Mais ils sont circulaires dans la mesure où leur construction est la réalisation plus ou moins parfaite de l'idée de cercle. Mais l'idée de cercle, elle est déjà dans votre intelligence avant que vous ne traciez le cercle. Vous voyez ? Eh bien, de même, les lois établies, les lois positives, sont justes ou injustes, non pas du fait qu'elles sont instituées, mais au regard de l'idée de justice que les hommes n'ont pas inventée, qu'ils découvrent dans leur intelligence. Et pas plus qu'il ne dépend de la décision des hommes que les rayons du cercle soient égaux, eh bien pas plus il ne dépend de la seule volonté d'un roi de décider de la nature de la justice. Voilà la démonstration par l'absurde. Donc la justice est dictée par, comme dit Montesquieu, par des rapports d'équité antérieurs à la loi positive qui les établit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit au début du paragraphe 9. Vous voyez, il faut donc avouer des rapports d'équité antérieurs à la loi positive qui les établit. Alors, quels sont ces rapports d'équité antérieurs à la loi positive qui les établit ? Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas m'étendre trop, je vais en dire le minimum et on reprendra éventuellement cette question. Comprenons simplement par ces rapports d'équité antérieurs à toute loi positive que vous avez affaire ici à des exigences d'égalité, de réciprocité, auquel tout législateur doit souscrire quand il fabrique des lois. Voilà, ce sont des règles qu'il met en œuvre quand il fabrique des lois. Et ces règles, il les découvre dans l'intelligence, dans son intelligence. Hein. Et ces lois ne sont vraiment authentiquement des lois que lorsqu'elles sont conformes, au fond, à ces exigences d'égalité et de réciprocité. J'en dis le minimum, voyez-vous. Alors, après les êtres particuliers intelligents, vous voyez, ça va aller très vite maintenant. Et avant de conclure le chapitre sur les hommes, Montesquieu aborde les bêtes. Alors, contrairement aux êtres intelligents qui ont des rapports avec Dieu par les rapports d'équité, si, parce que ce sont des rapports qui viennent de Dieu, eh bien, les bêtes n'ont aucun rapport avec Dieu, tout comme d'ailleurs le monde matériel, parce qu'elles n'ont aucune intelligence. Toutefois, à la différence des corps physiques, elles sont dotées de ce que Montesquieu appelle le sentiment. C'est le sentiment, c'est-à-dire la sensibilité, si vous voulez, qui règle le rapport qu'elles ont avec les autres bêtes et avec les autres êtres, comme les hommes. Et à ce titre, la loi qui régit les bêtes, et qui dérive donc de leur nature, c'est la loi du plaisir, ou ce que Montesquieu appelle l'attrait du plaisir. Plaisir de la nourriture, plaisir de l'instinct sexuel, refus de la douleur. Vous voyez, un être sensible, c'est un être qui recherche au fond son plaisir et qui fuit la douleur. Et c'est ainsi grâce à l'attrait du plaisir que les bêtes se conservent, aussi bien d'ailleurs en tant qu'individu qu'en tant qu'espèce. Donc, c'est pourquoi Montesquieu, là je suis rapide, va montrer que les lois qui gouvernent les bêtes, ce sont des lois naturelles. Des lois naturelles, c'est-à-dire des lois qui règlent spontanément leur conduite, qui règlent spontanément leur relation avec les autres bêtes. Alors, elles n'ont pas de loi positive, les bêtes. Elles n'ont pas de loi positive, c'est-à-dire qu'elles ne font pas des lois, elles n'obéissent pas à des lois qu'elles font. Elles n'ont pas de loi positive, faute de pouvoir inventer des lois, faute d'intelligence. Elles ne sont pas unies par la connaissance, contrairement aux hommes. Les hommes, ils sont unis par la connaissance au sens où il leur faut s'entendre pour élaborer des lois. Il faut des connaissances pour pouvoir concevoir et édicter des lois. Tandis que les bêtes, elles sont unies par le sentiment, donc spontanément, si vous voulez. Mais surtout, le point le plus intéressant que je vais retenir, c'est qu'il y a déjà chez les bêtes de l'indétermination. Regardez le paragraphe 12. Il dit, vers le bas du paragraphe, Montesquieu, que les bêtes ne suivent pourtant pas invariablement leur loi naturelle. Vous voyez, le monde animal n'est pas aussi, ne suit pas implacablement ses lois comme le monde matériel. Il y a du jeu, une certaine marge d'indétermination, vous voyez. Alors, certes, l'indétermination est moindre que chez les hommes, mais on peut considérer que le monde animal constitue une sorte d'étage intermédiaire entre le monde physique et où règne la variabilité, et puis le monde humain, où l'inconstance est maximale. Et pour terminer, pour aborder pleinement le cas de l'homme, il faut lire le dernier paragraphe. Je ne vais pas le faire ce soir. Je vous laisserai le faire, on commencera par là la prochaine fois. Il permet de récapituler l'ensemble, d'ailleurs, de l'argumentation du chapitre. Je me contente juste de quelques remarques. Vous verrez que l'homme est, finalement, en même temps, trois sortes d'êtres. C'est un être physique. C'est un corps physique, d'abord. Et à ce titre, il obéit rigoureusement, comme les autres êtres physiques, aux lois de la matière. C'est un être intelligent, et vous savez ce que nous avons dit des êtres intelligents, et c'est une créature sensible, comme les bêtes, mais Montesquieu explique, c'est un être sensible plus vulnérable que les bêtes. Je ne vous dis pas pourquoi, mais ça mérite évidemment le détour. Et c'est en tirant toutes les conséquences de l'inconstance qui caractérise ici l'homme, eh bien, qu'on va pouvoir comprendre la nécessité pour lui d'obéir à des lois instituées, d'obéir à des lois fabriquées par des législateurs humains. Alors, en conclusion, juste une conclusion, je voudrais répondre à une objection que vous pourriez adresser à Montesquieu. Oui, bon, j'ai bien compris. Vous dites qu'avec l'homme, l'inconstance est maximale. Ben, à ce moment-là, tout ce que vous dites est vain. À quoi ça vous sert, à ce moment-là, d'envisager votre projet, l'esprit des lois, qui consiste à vouloir rendre raison de l'infinie diversité des lois et des mœurs qui existent dans le monde humain? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt donner raison à Montaigne, à Pascal, pour lesquels cette diversité n'a rien de rationnel, mais renvoie seulement à la fantaisie des hommes? C'est ça l'objection qu'on serait tenté de faire. Évidemment, ce n'est pas la conclusion de Montesquieu. Vous comprenez bien qu'il a les moyens de répondre à ça. Certes, chez l'homme, l'inconstance est maximale. Il n'y a rien d'invariable dans le monde humain. Et bien des lois établies sont éloignées des exigences de la vraie justice. Pour autant, dans leur grande variété, les lois positives se conforment toutes à la nature des choses qu'elles entendent régler. Elles ont toutes un rapport à la nature des choses qu'elles entendent régler. Et donc, rendre raison des lois positives, alors ce ne sera certes pas dégager un rapport invariant comme dans le cas des corps physiques, ça, vous ne vous attendrez pas à une explication qui soit de même nature, on est d'accord. Mais en quoi ça va consister? En quoi il y a tout de même de la rationalité dans le désordre humain? Parce qu'il y a une forme de rationalité malgré tout dans le désordre humain. Eh bien, on parviendra à dégager cette rationalité en comprenant le jeu complexe des rapports, des multiples rapports, qui explique diversement chaque situation historique d'une nation et qui permettent ainsi de rendre compte de la singularité des lois et des mœurs de cette nation. Vous voyez, on va trouver une forme de rationalité tout de même si elle n'est pas aussi évidente que celle qu'on met en œuvre dans l'étude du monde physique. Donc vous voyez, oui, il y a du désordre, mais il y a toujours de la constance à travers ce désordre. Donc on va pouvoir effectivement étudier les lois et les mœurs. Je vous rassure. Voilà, et j'arrête là. Donc j'ai pas tout expliqué. Il en reste. Mais bon, vous voyez, le premier livre, faut le lire tout de même. Faut le lire à fond. Après, quand vous avez bien compris ça, franchement, vous avez le cadre qui vous permet d'entrer dans la lecture de Montesquieu beaucoup plus facilement. Alors, je suis à votre écoute. Allez-y.
Donc, en quelque sorte, Dieu n'aurait pas de libre arbitre, il n'aurait pas pu ne pas créer le monde.
Ah non, c'est pas ce que dit Montesquieu. Dieu a un libre arbitre. Il aurait pu ne pas créer le monde. Mais dès lors qu'il crée, il le crée nécessairement selon la raison primitive.
Mais on peut se demander où est écrite cette raison primitive.
C'est sa sagesse. C'est-à-dire que, alors je vous sortirai d'ailleurs une très belle lettre, une lettre persane, où il montre que vous ne pouvez pas penser Dieu autrement que juste. Ou alors, c'est par l'idée de justice que vous concevez Dieu. Vous allez, non pas de Dieu à la justice, mais de la justice à Dieu. C'est parce que vous avez l'idée de justice, c'est l'idée de justice qui vous permet de le concevoir. Mais c'est pas un Dieu injuste, ce n'est pas possible. Donc il y a une idée de justice qui est éternelle. Ah oui, bon, ça c'est affirmé.
Mais c'est plutôt platonicien.
Oui, en ce sens, oui. Oui, tout à fait. Les idées sont des réalités intelligibles, absolument. La justice, c'est une réalité intelligible. Oui, tout à fait.
Parce que pour le cercle, moi j'aurais tendance à penser que les hommes ont défini le cercle tel qu'ils l'ont défini, après avoir observé la pleine lune.
Ah non, pas du tout la démarche.
Mais
non,
ça,
non.
Ça n'est pas platonique.
Alors, bon, ce sera un petit peu plus compliqué que ce que je vous ai dit ce soir, malgré tout. Mais je ne vais pas entrer dans cette discussion tout de suite. Disons que, oui, pour simplifier, pour dire les choses de façon claire, oui, l'idée de cercle, ce n'est pas vous qui l'inventez. Elle est en votre esprit. Et si vous tracez des cercles, c'est parce que, d'une certaine façon, elle guide votre geste.
Oui.
Elle n'est pas... Elle n'est pas le... Ça, c'est la... Effectivement, là, ce qu'en dit Montesquieu, effectivement. Tout à fait. Comme l'idée de justice, vous ne l'inventez pas, elle est en vous, elle est dans votre intelligence, et elle va guider, effectivement, le législateur lorsqu'il institue des lois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va la suivre, rigoureusement.
Mais c'est un peu comme l'œuf et la poule.
Ah non, c'est pas pareil, parce que l'œuf et la poule, c'est empirique. Là, c'est une la justice ou le cercle, c'est une idée, c'est une réalité intangible. Enfin, c'est pas un processus. L'œuf et la poule, c'est un processus qui se déploie dans le temps.
C'est vrai.
C'est pas la même chose. Là, c'est vraiment une idée éternelle. Oui, là, ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est... Alors, il y a monsieur qui voulait poser une question.
Bonsoir. Énormément de choses, donc très très riche, merci. Non, je m'étonnais juste que dans le premier chapitre que vous m'avez communiqué, Montesquieu n'évoque pas du tout le mot société. Or, ce mot-là, me semble-t-il,
alors,
est assez lié à la loi, enfin aux choses des lois. Il ne dit pas, mais la loi est nécessaire pour faire société.
Alors, justement, bonne question, parce que ça, effectivement, on va y venir. Mais au départ, on va y venir. Mais justement, au départ, effectivement, on ne considère pas l'homme, on ne considère pas tout de suite la société humaine. On considère le monde intelligent, les mondes intelligents. On considère l'homme en tant qu'être intelligent. Et s'il n'était qu'un pur être intelligent, il suivrait... Excusez-moi. Déjà, un être intelligent peut ne pas suivre, effectivement, les lois de justice qui sont en lui. Donc, effectivement, c'est pourquoi il sera peut-être nécessaire d'inventer des lois pour pallier justement à cette désobéissance. Et c'est ce qui va se passer en société. Le problème, la question de la société, elle va être abordée, si vous voulez, au chapitre 3. Pas tout de suite, vous voyez. Mais là, en filigrane, la question déjà est annoncée à la fin du premier chapitre. Parce que vous avez compris que pour que on puisse envisager l'institution de lois en société, il faut d'abord avoir démontré pourquoi elles vont devenir nécessaires, pourquoi elles sont nécessaires. Parce que l'homme est justement un être qui déroge à ses lois d'être intelligent. Vous voyez ? Si les hommes étaient parfaitement justes, ils obéissaient aux lois de justice comme, je sais pas moi, les êtres matériels obéissent à leurs propres lois. Le problème ne se poserait pas, et la question de la société ne se poserait même pas. Vous voyez ? Mais donc, vous voyez, la démarche, elle consiste à partir au fond du cosmos pour aller vers l'homme, en quelque sorte. Vous voyez ? Vous voyez, c'est comme ça qu'on procède. Oui ?
Et quelle place vous faites au langage là-dedans,
en fait ? Là, effectivement, la question du langage n'est pas... Et pas vraiment abordé, hein, effectivement. Non, là-dessus, je ne peux pas vous dire. C'est-à-dire que le langage, c'est plutôt les langues que l'on acquiert. Enfin bon, ça n'existe effectivement qu'à partir du moment où il y a une socialisation. Hein. Bon, là, c'est pas abordé encore. C'est plutôt, on verra ça plutôt. Lorsqu'on va aborder le troisième chapitre, et encore. Oui, il faudra y penser. Non, là, vous avez une sorte d'enquête, en quelque sorte métaphysique, sur la nature de chacun des êtres, hein, et on va, à partir de cette réflexion finalement sur la nature des êtres auxquels on a affaire, on va pouvoir effectivement déduire quelles sont les lois qui leur correspondent et au fond on pourra savoir s'ils sont en mesure de les suivre rigoureusement ou non. C'est ça la démarche, c'est ça. Hein, vous voyez ? Oui ?
Si l'idée de justice préexiste, en quelque sorte, aux lois que les hommes ont instituées, est-ce que l'idée de réciprocité et d'égalité en est pour nous ?
Alors, c'est compliqué comme question. Disons que les règles d'équité, il parle de règles d'équité, qui préexistent effectivement à l'élaboration des lois positives. Et je n'ai pas abordé vraiment le problème à fond ce soir. En fait, c'est problématique. Parce que si vous regardez bien ce qu'en dit Montesquieu, ces lois, ces règles d'équité, elles préexistent effectivement aux lois positives. Mais d'une certaine façon, nous ne pouvons les connaître que parce que qu'à travers l'établissement des lois. C'est-à-dire, c'est parce que vous avez une formule d'ailleurs qui est frappante. C'est paragraphe 9. Il faut donc avouer des rapports d'équité antérieurs à la loi positive qui les établit. C'est-à-dire, si nous n'établissions pas des lois, nous ne pourrions pas connaître ces rapports d'équité. Nous savons qu'ils rendent possible l'institution des lois, mais nous ne pouvons finalement en avoir une connaissance que parce que nous établissons des lois. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que ce n'est pas simple, parce que vous aurez noté d'ailleurs que, c'est pour ça que je n'ai pas commenté, que Montesquieu donne des exemples seulement, des exemples de ces rapports d'équité. Et sa liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire que d'une certaine façon, si on donne des exemples de ces rapports d'équité, c'est qu'on a pu les apercevoir à travers l'activité législatrice. C'est-à-dire que c'est là que c'est compliqué. C'est-à-dire que ces rapports d'équité, c'est pas comme le cercle, dont on a une idée effectivement très claire, encore que non, c'est pas si simple non plus, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas une connaissance pure, d'abord, de ces rapports d'équité, clairs et nets, puis après, on passe à l'acte et on légifère. Non, c'est parce qu'on légifère qu'on peut avoir une idée de ce que sont ces rapports d'équité, étant entendu que c'est eux dont on voit bien qu'ils rendent possible l'activité législatrice. Mais donc on n'arrive pas à les saisir vraiment pleinement, indépendamment de cette activité. C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est pour ça que oui, je ne voulais pas aborder trop ça ce soir, parce que c'est un peu plus compliqué. En fait, si vous voulez, Montesquieu s'écarte de ces théoriciens qu'on appelle les théoriciens du droit naturel. Il en est proche et en même temps il s'en écarte. C'est-à-dire que les théoriciens du droit naturel, ce sont des penseurs, pour simplifier, qui pensent qu'on peut énoncer a priori des règles universelles de justice. Que la raison peut énoncer des règles universelles de justice, eh bien, que finalement le législateur doit suivre pour mettre en œuvre des lois justes. Eh bien, là, il ne vous énonce pas de manière, de cette manière-là, des lois, des règles a priori, des règles de justice qui serait parfaitement connaissable a priori, ne le fait pas, et dont il suffirait finalement, enfin qui suffirait de mettre en œuvre pour effectivement connaître, établir des lois véritablement justes. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Vous voyez la difficulté qu'on va rencontrer. Elle est là. Elle est là. Et c'est pour ça, c'est un aspect du texte que, bon, je n'ai pas voulu aborder ce soir. Déjà, il y avait pas mal de choses à dire, mais on le verra plus posément. Et puis vous savez, pour pouvoir mieux comprendre un texte, il faut aussi maturer. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre à première vue. Et c'est en lisant progressivement et en comprenant mieux au fur et à mesure que ces choses-là apparaissent. Vous voyez ? Mais votre question est juste. Hein. C'est-à-dire que, voilà, là il faudra revoir ça. C'est un point important.
C'est vrai que je peux m'empêcher de penser un petit peu à la...
Un peu plus fort.
À la morale kantienne, en fait, dire avec la notion d'impératif catégorique, en pensant à cette idée de justice,
oui.
Du droit général.
Oui.
Est-ce que, comment...
Oui.
Quand tu avais lu Montesquieu...
Alors, c'est-à-dire que la distinction qui fait être intelligent et être sensible, oui, ça ressemble pas mal à la distinction qu'il fait entre la raison et la sensibilité, voilà. C'est clair. Mais, sauf que chez Kant, il n'y a pas besoin de métaphysique pour effectivement, enfin, il n'y a pas
oui,
besoin, voilà, hein, pour, ouais. Pour effectivement concevoir une règle impérative qui.
Ouais,
voilà.
La raison.
Et là, encore une fois, la règle impérative. Bon, elle est supposée nécessaire pour construire des lois positives, mais on ne peut la saisir que parce qu'on construit des lois positives. Et c'est plus redoutable. Hein, c'est pas aussi simple que ça n'en a l'air. C'est vrai qu'il est hostile à une conception positiviste, à la façon de Hobbes, qui considère... Hobbes considère qu'au fond, il n'y a pas d'autre loi que les lois, il n'y a pas de justice que celle des lois établies. Hein. Donc, ça, c'est clair que Montesquieu écarte cette conception, mais en même temps, il ne suit pas ce mouvement, ce courant qu'on appelle le droit naturel, qu'il suivait au départ. Dans les lettres persanes, il est beaucoup plus proche de cette théorie du droit naturel, mais dont il s'écarte. Pas mal dans l'élaboration d'esprit des lois. Bon, mais là, encore une fois, là, c'est un peu chinois pour tout le monde, hein, parce que c'est vrai que c'est pas si simple que ça à comprendre tout de suite, ça. Mais on pourra le faire, hein, rassurez-vous. Ça vous a paru difficile ? Oui ?
Surprenant.
Enfin, c'est très cohérent.
C'est la physique, en fait.
Oui, oui.
Je ne m'attendais pas à voir
cette démarche.
Ce développement,
oui. Vas-y, tout se tient. Hein.
Oui, oui.
Mais là, c'est peut-être le seul texte de Montesquieu, dans l'esprit des lois, qui a cette tonalité métaphysique. Après, c'est fini. Après, c'est terminé. Mais il faut en passer par là. Parce que, d'une certaine façon, tout ce que nous allons dire des lois, on ne peut tout de même le comprendre qu'à la lumière de ce premier chapitre. Mais il met en place, au fond, tout le cadre conceptuel dont il aura besoin ensuite pour travailler, finalement. Vous voyez ? Enfin, il y a tout de même des choses qu'on peut comprendre. C'est pas... Ça ne vous a... pas passer au-dessus de la tête. Non, il y a des aspects peut-être un peu moins. Est-ce qu'il y a une question encore ? Une dernière question peut-être ? Oui ? Allez-y, oui. Parlez un peu plus fort parce que.
Je crois que je n'ai pas tout à fait compris le rapport de la. Enfin, il attribue à Dieu sur la création de la loi. Dans le paragraphe 4, il a l'air de dire que. Vient de Dieu d'une certaine façon, et plus loin, et d'après ce que vous avez dit, il me semble-t-il, enfin ce que j'ai compris de ce que vous avez dit, la loi découle de rapports d'équité antérieurs que l'homme a découvert dans son intelligence.
Alors,
d'un côté c'est Dieu, de l'autre côté c'est alors, des rapports d'équité
alors,
antérieurs.
Je vais essayer d'être. Carré. La justice, c'est-à-dire ces rapports d'équité, au fond, ils sont éternels. Ils s'imposent aussi bien à Dieu qu'à l'homme. Ils sont inhérents à la raison primitive. Vous voyez ? Et la raison primitive, au fond, c'est cette raison qui gouverne Dieu. C'est-à-dire que la justice... éternel ne dépend pas de la volonté de Dieu. Dieu, par sa volonté, ne fait que mettre en œuvre finalement cette justice, cette raison primitive. Vous voyez, Montesquieu écarte l'idée d'une création de la justice par Dieu. Il ne crée pas la justice. De la même manière, d'ailleurs, que ce n'est pas un roi qui établit la justice sur le plan des sociétés humaines. La justice est une idée éternelle, constitutive de cette fameuse raison primitive, si vous voulez. Vous voyez l'idée ? Et donc, elle s'impose tout aussi bien à Dieu qu'aux hommes. Est entendu que Dieu est une volonté, et l'homme aussi est doté d'une volonté. Mais la volonté ne fait jamais que, dans le meilleur des cas, faire passer à l'acte ce qui est en fait conçu par l'intelligence, dans le meilleur des cas. Vous voyez ? Mais la justice préexiste à la volonté divine. Ce qui veut dire que, évidemment, Dieu pourrait ne pas créer le monde. Il est libre de ce point de vue-là. Mais en tant qu'il crée, ce qu'il crée, il le crée selon la raison primitive, parce qu'il est sage. C'est-à-dire qu'il faut distinguer la raison primitive, non, c'est pas Dieu en un sens. C'est pas Dieu en un sens, oui, elle est divine, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est marrant, tout de même, quand on regarde le texte, il ne commence pas par parler de Dieu, il commence par parler de la divinité. Il dépersonnalise Dieu. Vous avez remarqué ? Il dépersonnalise Dieu, la divinité, la raison primitive. Vous voyez, la raison primitive, c'est ce qui est constitutif de la sagesse divine, et Dieu ne choisit pas d'être sage. Il est sage par essence. Il ne peut pas être autrement que sage. La divinité a ses lois. Maintenant, évidemment, Dieu, en tant que créateur, c'est la volonté qui fait être le monde. Il choisit de faire exister le monde. Mais s'il choisit de faire exister le monde, il ne choisit pas la manière dont il l'organise. Vous voyez ? Puisque finalement, il crée le monde selon cette fameuse raison primitive qui ordonne sa sagesse. Vous comprenez ? Et donc, il minore la liberté de libre arbitre.
Oui, mais il a quand même besoin de...
Mais il a besoin de ce moteur, de cet acte créateur.
Sinon,
absolument, absolument. Il y a un libre arbitre. Donc, il y a...
Et
au niveau de l'homme, le libre arbitre, il est une puissance de dérogation.
Sinon, son système fonctionne.
Voilà, absolument. Mais à la limite, quand la loi se limite à n'être qu'un acte de la volonté, c'est-à-dire quelque chose d'arbitraire, ce n'est plus vraiment une loi. C'est un décret arbitraire. Voilà. Et donc, il combat sur deux fronts. Un, il combat l'idée d'une création arbitraire, d'un Dieu qui pourrait faire tout ce qu'il veut, qui choisirait comme un despote, un monarque. Il pourrait faire que la justice soit autrement qu'elle n'est. Non ? Vous voyez ? Ça, il écarte cette idée-là. Parce qu'à ce moment-là, si vous partez de l'idée d'un arbitraire au principe, finalement, de l'existence des choses, ben, les choses deviennent irrationnelles. Et puis, il écarte, de la même manière, l'idée de l'arbitraire au niveau humain, quand il va s'agir, effectivement, de penser les lois humaines. De véritables lois ont toujours des raisons d'exister. Elles se fondent toujours sur des raisons. Vous voyez ? Donc, l'intelligence prime, en quelque sorte, sur la volonté. Vous voyez ? De ce point de vue-là. Tandis qu'une loi qui est décidé simplement parce que j'ai décidé, alors là, vous êtes sur la voie du despotisme. Yes. Alors, c'est des choses qu'on va revoir, si vous voulez, au fur et à mesure, à tous les étages de la réflexion de Montesquieu. Mais non, Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Hein. Il ne peut pas faire autrement qu'il n'est, puisqu'il est parfait, il est sage. Bon, Alors c'est pas Dieu. Un Dieu arbitraire, non. Il ne peut pas ne pas être sage. Il suit implacablement ses propres lois. La divinité a ses lois. Alors évidemment, voilà, ça c'est quelque chose. Vous voyez ? Question ? Non ? Comment ? Si, il est tout puissant au sens où il fait exister le monde. Mais sa puissance ne prime pas sur sa sagesse. Sa puissance n'est pas synonyme d'arbitraire. Voilà. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui apparaît très clairement dans le texte. Et c'est pour ça que d'une certaine façon, bon, bien sûr qu'il n'est pas spinoziste. Il y a une volonté divine, il y a un Dieu qui crée et qui légifère. Bon, mais...
On a l'impression qu'il ne saute pas le pas, alors que Spinoza, lui...
Ah oui, mais pour Spinoza, il n'y a, voilà. a plus de Dieu créateur, ni Dieu législateur. Alors, il y a des interprètes... Alors, il y a des interprètes qui forcent un peu le trait, qui considèrent que, bon, c'est une concession de la part... stratégique, oui, c'est un peu la part. Bon, je crois pas, tenez. Je pense, non, je pense que non. Je crois qu'il est, dans cette idée qu'il y a un Dieu législateur, un Dieu qui construit le monde, qui ordonne le monde, etc. Non, ça, qu'il y a une sagesse divine. Mais pour Spinoza, il y a Dieu c'est, on emploie le mot Dieu pour désigner toute autre chose que ce que les hommes appellent Dieu. Dieu, c'est la nécessité absolue, c'est la nature. Nous sommes en Dieu, nous sommes des parties de Dieu. Oui. Voilà, c'est tout à fait autre chose. Mais il n'y a plus de libre arbitre à ce moment-là, où la liberté se pense autrement. Oui, on retrouve la question de la liberté, hein, vous voyez. Bon, on va peut-être arrêter là, parce que là, je vois qu'il est moi-même. Donc la prochaine séance est après les vacances, le 7 je crois. Hein.